vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Il y a bientôt 2 ans, la France a inscrit l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG, dans sa constitution. 50 ans après sa légalisation, l'IVG a toujours l'appui de 80% de la population française. C'est une toute autre histoire du côté de nos voisins américains où le droit à l'avortement recule. On se souvient de l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade en 2022. Cet arrêt rendait la pratique de l'avortement constitutionnel dans tous les États-Unis depuis 50 ans. Avec le retrait de cette protection fédérale, de nombreux États américains restreignent et même interdisent l'accès aux femmes au choix de ne pas poursuivre leur grossesse. Aujourd'hui, c'est au tour du Québec de vouloir inscrire le droit à l'avortement dans sa constitution. Cette disposition du ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, est loin de faire l'unanimité car elle ouvrirait la porte à la remise en question d'un droit essentiel pour les femmes, celui du choix. Alors, comment protéger le droit à l'avortement au Québec? On en parle tout de suite. Ne bougez pas. Je vote pour la science. Nous intéressons aujourd'hui au droit à l'avortement et à la santé des femmes et à ce qui peut nuire à cette pratique. Je suis en compagnie d'Ophélie Lacroix, étudiante au doctorat en communication en études féministes à l'UQAM. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Jess Legault, coordinatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances, responsable du dossier avortement. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie, plus à distance, à Frédéric Nadeau, professionnel de recherche à la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent, l'université de Sherbrooke, de Concordia et d'UQAM. Vous avez 3 universités sur votre tête. Bonjour, monsieur Nadeau.
Oui, bonjour.
Donc, il y a près de 2 ans, l'ancienne ministre responsable de la condition féminine, Martine Biron, avait décidé de ne pas déposer son projet de loi sur le droit à l'avortement. C'était 6 mois après que la France avait inscrit l'interruption volontaire de grossesse dans sa constitution, ce que l'actuel gouvernement québécois aimerait aussi faire. Cela n'apporterait rien de bon pour le droit à l'avortement, bien au contraire, soutiennent de nombreux experts et juristes. On va en parler aujourd'hui. Donc, pour commencer, peut-être, Madame Legault, rappelez-nous quelles sont les conditions d'accès à l'avortement au Québec.
Mais merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui et de parler de cet enjeu important. L'accès à l'avortement est libre et gratuit au Québec, mais est inégal à travers la province. La moitié des points de service en avortement se retrouvent à Montréal. Donc, dans certaines régions, il y a un seul point de service et les délais peuvent aller jusqu'à 4 à 6 semaines, dépendant de la région, dépendant du site.
Il y a donc combien des points?
54. À la dernière révision.
Oui, d'accord.
Ouais. Donc, on est quand même chanceux comparé à certaines autres provinces qui ont un seul point pour la province au complet. La moitié des cliniques du Canada se retrouvent quand même au Québec. Donc, quand on se compare, on se console, mais il y a toujours place à l'amélioration.
Oui. Les conditions pour une femme d'avoir justement accès à cette pratique, c'est quoi?
Si on a accès à l'assurance maladie, la carte RAMQ, c'est gratuit.
Okay.
Et il y a 2 méthodes, l'avortement par médicament qui se fait à la maison et l'avortement par instrument qui se fait en clinique. Les 2 doivent être prescrits par un médecin ou une sage-femme. Donc, il y a 2 méthodes différentes et un des gros enjeux d'accès présentement au Québec, c'est les personnes qui n'ont pas accès à la RAMQ. Donc, elles doivent payer de leur poche et des fois, la RAMQ exige une surcharge de 200%. Donc, les prix peuvent aller jusqu'à 10 000 $ dépendant du stade de grossesse.
Pour une femme qui déciderait de le faire, est-ce qu'elle peut le faire à n'importe quel moment de sa grossesse?
Oui, il n'y a aucune limite sur le nombre de semaines au Canada.
Même à la troisième... Oui. Période de grossesse.
Ouais, après, c'est très, très, très rare. On s'entend, c'est moins de 1%, c'est à peu près 0,1% des cas. Donc, c'est très rare. Mais oui, c'est possible à n'importe quel stade. C'est une décision qui se fait par la femme
pour elle-même,
en collaboration avec son médecin.
Entendu. Le gouvernement québécois a présenté à l'automne sa loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, ce qu'on appelle la loi 1, où figure une disposition sur la liberté des femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse. Intégrer l'accès à l'avortement dans la Constitution, est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être, M. Nadeau?
Le gouvernement du Québec protège le droit à l'avortement. Et là, on peut introduire une petite modification à l'intérieur de X nombre de semaines, ou encore pour telle et telle raison. Et donc là, ça vient, en fait, ça donne un peu une cible pour les mouvements opposés à l'avortement, là, à laquelle s'attaquer. Et puis on sait déjà, on l'a vu d'ailleurs avec la recherche, le rapport qu'on vient de publier, là, comment la question, la judiciarisation est un instrument et est une tactique utilisée par les mouvements contre l'avortement. D'une part pour obtenir de la visibilité, pour mobiliser les troupes aussi. Donc effectivement, là, c'est quelque chose qui est clairement un enjeu.
Oui, Mme Lacroix, une bonne idée ou une mauvaise idée? Oui. La France l'a fait?
Mm-hmm. En fait, pour compléter un peu sur ce que Frédéric vient d'apporter, en fait, c'est qu'on voit que le mouvement anti-avortement au Québec est organisé et très opportuniste. Et un autre exemple pour montrer cette forme d'opportunisme-là qui pourrait mener à, finalement, utiliser cette inscription juridique comme une forme de cible, c'est que, on va voir qu'il y a des rhétoriques qui sont utilisées par le mouvement, qui sont d'apparence parfois progressistes, donc on va aller puiser dans des imaginaires plus liés au féminisme, si on veut, et on va aussi aller chercher, ou en tout cas aller chercher certaines connivences avec des mouvements qui sont plus réactionnaires. Donc, on vient mobiliser une grande gamme de stratégies, d'arguments, et donc ça vient confirmer un peu cette peur-là de l'opportunisme du mouvement anti-avortement dans la province.
Oui, Madame Legault.
Et c'est parfait qu'est-ce que mes collègues ont dit, mais je rajouterais aussi.
Oui, allez-y.
On est déjà protégé par 5 jugements de la Cour suprême au Canada. On sait que M. Jolin Barrette utilise l'exemple des États-Unis comme exemple de qu'est-ce qui pourrait arriver au Canada, mais c'est pas du tout la même situation. Et nous, on n'est pas une jurisprudence qui se fie sur un seul jugement. On a 5 jugements depuis 1988 jusqu'à 1999 qui nous protègent. Donc, il n'y a pas de vide juridique et la Charte canadienne des droits et libertés nous protège et a préséance sur n'importe quel projet de constitution qui serait déployé au Québec.
Oui, au Québec, oui. Tout à fait. Donc, le droit à l'avortement constitue un droit fondamental des femmes. Il continue cependant à être remis en question par certains groupes et individus. Dans le cadre du plan d'action gouvernemental sur l'accès à l'avortement, une recherche donc a été menée en partenariat avec la Fédération du Québec pour le planning des naissances et le secrétariat à la condition féminine sur les oppositions à l'avortement et à laquelle vous avez participé tous les trois. Donc, le rapport « Quand le consensus vacille état des lieux du mouvement contre l'avortement au Québec » montre qu'il n'y a pas de consensus, il ne s'agit pas d'une opposition monolithique, mais plutôt d'un continuum entre la promotion d'alternatives, de restrictions partielles, pour la santé des femmes notamment, jusqu'à l'opposition totale. Peut-être, Madame Lacroix, quelles sont les actions de ces groupes-là, de ces personnes-là?
Dans le rapport, finalement, on documente tout plein d'actions, de stratégies, de rhétoriques. Donc, on s'est intéressé, entre autres, aux lieux de mobilisation, donc les espaces qui sont investis par le mouvement anti-avortement. Donc, ça va, comme on l'a mentionné plus tôt, des espaces juridiques, mais aussi, on voit qu'il y a un investissement des espaces en ligne qui permet du réseautage, qui permet de partager des discours, partager des idées. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une pluralité d'actions, puis que finalement, ce n'est pas seulement... Il y a un nœud ou un fond dur du mouvement anti-avortement qui est très, très proche d'une défense de droit anti-avortement pur et dur, mais on a aussi tout plein d'oppositions qui peuvent passer par suggérer des idées qui ont l'air moins conservatrice, si on veut, donc, et qui permettent finalement d'ouvrir la porte à remettre en question l'état du droit à l'avortement. Et donc, on inclut dans nos considérations ces oppositions-là aussi.
Oui, j'imagine qu'il y a le retour à la famille, mais j'ai vu aussi qu'il y avait un côté un peu plus féministe de droit de la santé des femmes.
Mm-hmm. Effectivement, c'est un élément qui a été déjà un petit peu documenté dans d'autres mouvements ailleurs dans le monde. Et puis, on voit que c'est le cas aussi au Québec. Donc, cette mm-hmm. idée que le mouvement essaie de se montrer finalement comme protecteur des femmes, mm-hmm. comme ouais. défenseur finalement, qu'il faut protéger les femmes de l'avortement. Puis là-dedans, on inclut tout plein de stratégies, entre autres faire la promotion d'éventuels effets secondaires de l'avortement, même en mettre en inventer de toutes pièces qui sont démenties là, par la littérature scientifique médicale. Et aussi, par exemple, un des exemples de cette stratégie de mettre l'avant la protection des femmes, on va inclure l'éventuelle discrimination dont feraient l'objet les fœtus féminins en mettant de l'avant la question de l'avortement sexo-sélectif, alors qu'on n'a pas de données qui avancent que c'est un enjeu.
Ça veut dire quoi exactement?
En fait, ils vont proposer que finalement, il y aurait plus d'avortements lorsque...
De on petites sait, filles, en fait,
de fœtus qu'on voit comme étant XY. Mm-hmm. Et donc... ça a été documenté ailleurs dans le monde et c'est un peu amené pour ouvrir la porte sur revoir la question, l'état du droit ici. Mais on n'a pas de données qui permettent d'avancer là, qu'il y a une survalence de ce genre d'avortement.
Le choix de sexe de l'enfant qui justifierait en fait.
Exactement.
En fait, ça. Monsieur Nadeau, comment se définit ce mouvement-là anti-avortement?
Oh, ben alors, c'est un mouvement qui est excessivement large, mais si je peux commencer peut-être par renchérir un petit peu sur la question précédente, là, en fait, sur le fait que, effectivement, le consensus vacille, c'est le titre du rapport. Donc, c'est effectivement l'impression, c'est ce qui a, en fait, mené, d'une certaine façon, à la production de ce rapport-là, c'est la question qu'on se posait, parce qu'on voyait, en fait, que selon les sondages, selon les statistiques dont on dispose, là, au Québec, il y a 59% des personnes qui se disent entièrement favorables au libre choix. Et il y a 5% des personnes qui sont entièrement opposées à l'avortement. Et donc, ça laisse 37% des Québécoises qui sont quelque part entre les deux positions. Donc, en faveur du libre choix, mais tu sais, selon avec certaines restrictions, possiblement, et tout ça. Et donc, en fait, c'est qu'on a souvent l'impression qu'au Québec, on est à l'abri, on est protégé de ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis, que, justement, le droit à l'avortement, le droit de l'accès à l'avortement est acquis, alors qu'en réalité, ce qu'on constate, c'est que, justement, le consensus n'est peut-être pas aussi solide qu'on aime à se le représenter. Mm-hmm. Et donc, pour revenir à la question que vous posez, comment on définit ce mouvement-là? En fait, ce qu'on a observé, c'est vraiment, là, dans les dernières années, un élargissement des alliances un peu idéologiques autour de l'opposition à l'avortement. Donc, historiquement, ça a été souvent un mouvement qui était porté par des mouvements religieux. Mais là, ce qu'on a observé, là, dans les dernières années, c'est qu'il y a eu vraiment un élargissement des discours, des réseaux d'acteurs aussi, des croisements idéologiques, donc aux discours, aux positions plus religieuses, plus morales qui s'opposaient à l'avortement. On a aujourd'hui aussi des discours qui relèvent, par exemple, de l'ethno-nationalisme, du masculinisme, on a certains discours conspirationnistes, et comme on le disait aussi au début, il y a quelques minutes, et même des discours féministes, même écologistes en fait, qui viennent se greffer à cette opposition-là. Donc, on voit vraiment là, un élargissement, des points d'entrée dans la cause là, anti-avortement.
Oui, Madame Legault, est-ce qu'on observe une différence entre le Canada anglais et français? Est-ce qu'il y a des déchets?
Toujours. mais sur le mouvement anti-avortement, puis je vais laisser mes collègues compléter par après, mais on s'est souvent vu à l'abri de plusieurs discours, étant donné la barrière de la langue. Donc, on était un peu protégés de ce mouvement-là. Mais avec les nouvelles technologies de traduction, avec un genre d'un spotlight qui arrive sur le Québec, étant donné que le mouvement canadien a identifié le Québec comme leur maillon faible dans le mouvement anti-avortement, étant donné que le consensus social était quand même majoritaire
fort,
au Québec. Mm-hmm. Donc, beaucoup de ressources canadiennes et états-uniennes viennent maintenant, financières et humaines, au Québec, justement, pour essayer de briser ce consensus-là, puis d'insérer des discours qui viennent troubler un peu notre perspective pro-choix au Québec.
Oui, je peux peut-être donner un exemple par rapport à ça. On le voit sur le plan du réseautage numérique. Il y a certains contenus qui sont publiés par des organisations anti-avortement des États-Unis qui sont repris tels quels, tout simplement
traduits.
Exactement. Puis on retrouve la même rhétorique, les mêmes idées, le même ton. Donc, on voit très clairement là, qu'il y a de la connivence de ce côté-là.
Oui, mais il n'y a pas de référent culturel. Il n'y a pas de... Monsieur Ladeau?
Il y a une appropriation, disons, une réinterprétation de certains référents culturels. Bon, on l'a vu, si on veut parler un peu d'un effet Trump sur le Québec, là, des influences américaines ici. Donc, on a quand même vraiment pu observer, là, depuis, disons, 2015-2016, une certaine légitimation, décomplexion des discours contre l'avortement qui s'expriment là, quand même plus librement dans l'espace public québécois. Ça s'est manifesté notamment par l'organisation de Marche pour la vie. La première édition à Québec a eu lieu en 2024. Ça s'est répété ensuite en 2025. Donc ça, on voyait pas ça précédemment. Donc ça, c'est assez nouveau. Ensuite, on l'a vu en fait avec le renversement là du jugement Roe contre Wade, qui a été interprété, en fait, par les mouvements québécois comme une espèce de victoire symbolique qui venait montrer, en fait, que l'avortement n'était pas un acquis irréversible, qu'il avait possibilité, donc, de renverser ces décisions-là, même quand on croyait qu'elles étaient durement acquises, ou en fait, qu'elles étaient clairement inscrites dans les lois, dans les façons de faire. Donc, c'est vraiment devenu, en fait, donner une certaine énergie au mouvement québécois. On a vu aussi une certaine importation d'un vocabulaire, le vocabulaire par exemple de la guerre culturelle, de la famille traditionnelle, un discours axé sur la question des libertés individuelles. On a vu aussi une importation des répertoires d'action, souvent qu'on voyait aux États-Unis ou au Canada anglais, donc qui ont été reprises au Québec. Donc c'est moins un peu une influence institutionnelle que vraiment une influence culturelle. On a une restructuration des discours, des styles rhétoriques et tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même un effet d'importation, traduction entre les États-Unis, le Canada anglais et le Québec.
Oui. Madame Legault, est-ce que ce qui se passe aux États-Unis donc vient amplifier ce mouvement pro-vie ici? Est-ce que vous le sentez?
Oui, il y a vraiment aussi un manque de connaissance dans la population générale de la différence juridique entre les États-Unis et le Canada. Donc, évidemment que les gens savent que c'est deux pays différents, mais ils pensent vraiment que c'est le même système juridique dont avec les mêmes restrictions, par exemple, sur le nombre de semaines ou que l'accès à l'avortement peut être restreint aussi facilement, aussi rapidement que Roe v. Wade avec toutes les lois qui sont venues instantanément restreindre le droit à l'avortement aux États-Unis. Donc, c'est sûr qu'il y a une influence à ce niveau-là. Et je rebondis un peu sur ce que Ophélie disait tantôt avec le Québec étant une culture où le féminisme, la laïcité, ces choses-là, d'essayer de...
sont très importantes.
Donc, c'est là qu'on voit que que le mouvement anti-avortement s'adapte pour ramener plus sur le terrain de l'empowerment des femmes. Les gens ne croient pas que tu serais capable de finir tes études et avoir un bébé, mais nous, on te croit. Okay. Tu sais, des choses comme ce genre de discours-là qui évite un peu plus le discours religieux, culpabilisant, moralisateur. Donc, c'est là qu'on voit l'adaptation entre les discours américains qui sont plus religieux ou canadiens qui sont... Tu sais, c'est vraiment... On va le faire à taille unique pour le Québec seulement. Tu sais, c'est là qu'on voit cette adaptation du discours pour aller chercher un soutien au Québec.
Est-ce qu'ils sont plus visibles aussi, ces mouvements-là?
Depuis 2022, je dirais que oui, absolument. Comme Frédéric disait, le lendemain du renversement de Roe v. Wade, il parlait d'une victoire. Il y a eu des pamphlets distribués à travers le plateau. Des pamphlets...
Le plateau de Montréal.
Oui, le plateau de Montréal. Et ils ont... c'est ça, des pamphlets anti-choix, anti-avortement qui ont été dans toutes les boîtes aux lettres. Il y a eu la Marche pour la vie en 2024 qui va être reprise cette année encore une fois, pour la troisième fois. Donc, c'est... il y a une décomplexion, mais on le sait aussi que c'est à cause d'une main forte qui est arrivée du Canada anglais. Donc, il y a vraiment de l'argent, des ressources qui ont été envoyées au Québec justement pour ça. Et ils s'organisent parce qu'ils voient la possibilité. On l'a vu en décembre avec le président de campagne Québec Vie qui disait que justement le projet de loi 1 offrait une cible à abattre pour le mouvement anti-choix.
Ah, donc maintenant, c'est clair, on serait, au moins.
C'est ça, ça nous facilite la tâche. Mais on serait les premiers au Canada à légiférer sur l'avortement, puis ce serait nous qui ouvririons la porte aux anti-choix.
Ouais, une porte qu'on ne veut pas ouverte. Madame Lacroix, à quoi ressemblent les complots liés aux avortements, généralement?
Oui, mais il y en a quelques-uns qui ont émergé, surtout en lien avec la vaccination. Donc, ça a comme été un espèce de terreau fertile dans la foulée de la COVID-19. Donc, on est allé suggérer que il y avait des... que les fœtus, finalement, servaient ou étaient réutilisés pour la fabrication de vaccins. Donc, on voit encore là qu'on vient puiser dans d'autres types de stratégies. On s'adresse à d'autres types de personnes, d'autres croyances. Donc, il y avait ce complot particulièrement.
Oui, sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils sont décomplexés aussi? Comment se porte ce discours-là? Est-ce qu'il y a des mythes aussi que...
Oui, peut-être que Fred, tu peux...
Oui. Ben, monsieur.
Oui, oui, ben en fait, je pourrais renchérir en fait, aussi sur la question du complot. Là, je pense que vous avez... Ophélie, tu as très bien résumé, c'est ça, sur la question, disons... alter-science, là, ou enfin les sciences un peu alternatives et tout ça, sur l'industrie pharmaceutique, mais on voit aussi la mobilisation là de différentes théories du complot, parce que, bon, je mentionnais un peu comment le mouvement avortement s'était diversifié au niveau idéologique, et donc là, on a vu, par exemple, des militants qui sont plutôt associés à la droite identitaire, à l'extrême droite, voire un peu ethno-nationaliste, voire suprémaciste, qui se sont emparés, en fait, de la question de l'avortement, de la natalité, de la démographie, et qui promouvoient donc des récits selon lesquels, en fait, les élites politiques, les politiciens, mais aussi les progressistes, les mouvements féministes et tout ça, en fait, comploteraient ensemble pour essayer de remplacer les populations blanches au Québec. Donc, on est vraiment dans la théorie du grand remplacement, là, qui est une théorie du complot qu'on observe beaucoup à l'extrême droite et qui est reprise, en fait, pour servir la cause de l'opposition à l'avortement.
Un discours anti-immigration, un petit peu.
Exactement, c'est ça.
Madame Legault, rappelez-nous les multiples impacts négatifs associés à un refus de l'accès à l'avortement.
Interdire l'avortement n'élimine pas l'avortement. Ça le rend plus clandestin et dangereux. Donc, ça, c'est à travers les siècles, à travers les époques, à travers le monde, c'est toujours le cas. Ça continue d'être le cas. C'est les femmes qui doivent avorter vont toujours trouver une façon d'interrompre leur grossesse. Donc, c'est vraiment un enjeu de santé et de droit fondamental pour les femmes et les personnes qui peuvent être enceintes. Et de l'autre côté, c'est d'avoir accès à l'avortement permet une certaine liberté des femmes de choisir si et quand elles veulent avoir des enfants, si elles en veulent un autre, si elles en veulent avec ce partenaire-là.
Un quatrième, un cinquième.
Ouais, c'est ça. Et dans une perspective de justice reproductive, il faut aussi regarder la société en général, comment s'inscrit la parentalité, la maternité dans la société actuellement. Donc, actuellement, certaines femmes, certaines personnes font le choix, mais qui est un choix forcé à l'avortement parce qu'elles n'ont pas un logement salubre ou elles ne peuvent pas se permettre d'avoir un autre enfant ou elles doivent choisir entre l'épicerie et la contraception. Donc, c'est des choix...
Ça coûte cher.
Ça coûte enfant, ça coûte cher un enfant, mais des fois c'est un enfant, c'est une grossesse désirée, mais ces deux autres enfants n'ont pas de place en garderie. Donc voilà, il y a des choix comme ça que le filet social est en train de s'effriter, et l'avortement s'inscrit dans cette liberté de choix, de justice reproductive, de s'assurer que non seulement on milite pour le droit à l'avortement, mais aussi pour les logements sociaux, pour tous les autres aspects du filet social qui garantiraient des vrais choix libres et éclairés pour ces femmes-là.
Oui, Madame Lacroix, les points positifs justement associés à l'avortement, l'inverse de la question précédente finalement.
Ben en fait c'est de pouvoir choisir sa trajectoire de vie, sa son autonomie corporelle aussi. Alors excessivement important de pouvoir ne pas toujours avoir aussi cette peur là
de ça tomber enceinte, exactement, et de tout arrêter pour
ça. Qui est une forme de travail aussi là, de toujours naviguer avec cette possibilité là. Alors c'est une manière aussi de d'adoucir les inégalités sur ce plan là entre partenaires sexuels, puis de partager les charges.
Oui, parce que le poids est beaucoup encore sur les femmes finalement, parce que la contraception est sur les femmes aussi, hein. Est-ce que la priorité ne devrait-elle pas être le financement adéquat des services existants? J'imagine que oui.
Oui, c'est une réponse simple, mais oui, absolument. Et je renchéris sur les propos de Fred, mais aussi de maintenir et de bonifier les cours d'éducation à la sexualité.
Ah oui, d'aller...
étant donné, c'est ça, c'est la pierre angulaire d'une santé sexuelle et reproductive saine et épanouissante, c'est vraiment d'être au courant de qu'est-ce qui se passe, d'avoir des relations saines, de prévenir la violence et tout ça. Et dans le, si je vais prêcher un peu pour ma paroisse, no pun intended, mais tu sais, avec la campagne électorale qui s'en vient à l'automne, l'éducation à la sexualité est souvent instrumentalisée et pour parler d'idéologies qui ont rien à voir avec les vrais contenus qui sont dans les cours actuellement. Donc, j'inviterais les partis politiques, les députés, les candidats à aller lire les contenus obligatoires et d'être au courant de quoi ils parlent avant de mener une charge contre l'éducation à la sexualité.
Entendu. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie, vous venez de l'entendre, de Jess Legault, coordinatrice générale de la Fédération du Québec pour le planning des naissances et responsable du dossier avortement, d'Ophélie Lacroix, étudiante au doctorat en communication en études féministes à l'UQAM, et de Frédéric Nadeau, professionnel de recherche à la chaire UNESCO de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent. Merci beaucoup à tous les trois.
Merci à vous.
Merci. Merci à vous.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science est une production de Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robartcher, à la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez suivre aussi la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très belle semaine à notre antenne.
Jing Jianghua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique, et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, de traductome, de protéome.